Y en a marre, Ballet Citoyen, Filimbi sont quelques-unes des nouvelles mobilisations citoyennes en Afrique. Ces mouvements défient démocratiquement et pacifiquement les pouvoirs souvent autoritaires de leur pays. Ils rendent de l'espoir et de l'envie à l'action collective aux jeunes Africains marginalisés de leur gouvernement. Leurs outils prépondérants sont la téléphonie mobile et l'Internet pour entretenir et créer de nouvelles solidarités à l'intérieur et au-delà des frontières. Enregistré le 11 avril 2016 à l'amphithéâtre Chavannes du campus du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles, le débat est introduit par Marie Soleil Frère, professeure à l'ULB et maître de recherche au Fonds national de la recherche scientifique. Olivier Roger, grand reporter à RFI Radio France Internationale, co-anime le débat.
Bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux ce soir pour assister à notre rencontre sur les nouvelles mobilisations citoyennes en Afrique. Alors pourquoi on a décidé d'organiser cette rencontre aujourd'hui ? Comme vous vous en souvenez, il y a 25 ans, au début des années 90, l'Afrique a connu un printemps politique, un printemps médiatique. On a vu émerger le multipartisme, on a vu émerger quantité de nouveaux médias privés. Et on a vu émerger un système pluraliste après des années, des décennies d'autoritarisme. Mais ce rêve démocratique pour l'Afrique a rencontré bien des déboires dans plusieurs régions du continent. Ces processus d'ouverture politique ont débouché dans certains pays sur des conflits, sur des guerres civiles, sur des alternances bloquées par des dirigeants qui n'étaient pas désireux de quitter le pouvoir. Et donc, 25 ans plus tard, on trouvait que c'était important de pouvoir faire un bilan de la situation actuelle et de regarder quelles étaient les dynamiques qu'on voyait émerger aujourd'hui sur le continent. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, parmi les chefs d'État africains, un certain nombre ont l'air de vouloir s'accrocher au pouvoir. Vous avez suivi depuis 2-3 ans tous ces changements constitutionnels dans un certain nombre de pays où les dirigeants veulent aller au-delà de la limite normalement acceptée du nombre de mandats qu'ils peuvent prester à la tête du pays. Et donc, on voit un certain nombre de dirigeants, y compris des dirigeants qui étaient issus de ces alternances démocratiques d'il y a 25 ans, se cramponner aujourd'hui au pouvoir. Alors, ils se cramponnent au pouvoir, ils ressuscitent des vieilles pratiques qui sont des pratiques qui nous rappellent les pratiques de leurs prédécesseurs pendant la période du monopartisme et des régimes autoritaires qui ont succédé aux indépendances. Mais on n'est plus dans la même situation parce que la société a changé. Aujourd'hui, la société en Afrique est une société jeune, est une jeunesse connectée, et cette jeunesse connectée, c'est une jeunesse informée. Donc la situation n'est plus du tout la situation qui s'est mise en place en Afrique dans les années 60 ou dans les années 70, au moment où se sont installés des régimes autoritaires. Et c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. On voulait parler de ces mouvements qui émergent sur le continent africain depuis quelques années, ces mouvements composés de jeunes et de moins jeunes, mais qui ont la volonté de dire non aux pratiques autoritaires qui semblent vouloir se réinstaurer, et donc une jeunesse qui veut jouer un rôle de sentinelle par rapport au pouvoir politique. Alors cette rencontre, elle a été possible grâce au Parlement européen avec lequel nous avons entrepris un partenariat. Les quatre militants de mouvements citoyens qui vont vous parler ce soir, sont arrivés à Bruxelles à l'invitation du Parlement européen la semaine dernière, qui organisait une semaine africaine. Et le Parlement européen a accepté, parce que l'université était fermée la semaine dernière, nous étions en congé, le Parlement européen a accepté de prolonger le séjour de ces quatre militants pour que vous puissiez les rencontrer et que vous puissiez aussi, que l'ULB puisse aussi bénéficier de leur présence. Donc je remercie le Parlement européen, je remercie aussi la cellule événement de l'ULB, je remercie Philippe Delchambre pour toute l'infrastructure de sonorisation et je vous donne quelques éléments sur la manière dont la soirée va se dérouler. Donc d'abord, cette soirée étant organisée en partenariat avec le Parlement européen, nous pouvons compter sur la présence, et nous sommes très honorés de compter sur la présence de deux députées européennes qui ont fait un gros effort pour être avec nous ce soir, parce que, comme vous le savez, cette soirée était prévue le 30 novembre. Le 30 novembre, c'était juste quelques jours après le lockdown de la ville de Bruxelles. Et donc, nous avions été contraints à l'époque, le Parlement avait été contraint d'annuler sa semaine africaine et nous avions été contraints d'annuler la conférence à l'ULB. Donc, cette conférence a été reprogrammée. Mais une semaine où nos députés européens sont normalement en session à Strasbourg. Et donc, Maria Arena, députée du Parti socialiste belge, Cécile Kyenge, députée italienne, nous ont fait l'immense plaisir de reporter leur départ à Strasbourg à demain matin pour pouvoir être avec nous ce soir, et je les en remercie. La personne qui animera le débat avec moi ce soir est Olivier Roger. Alors Olivier Roger, pour ceux d'entre vous qui êtes familiers des ondes de Radio France Internationale, de RFI, c'est un nom que vous avez beaucoup entendu. Olivier a été correspondant à Moscou, puis il a été correspondant à Dakar, puis il a travaillé pendant plus de 10 ans au desk Afrique de Radio France Internationale, et il a couvert l'ensemble, l'émergence des mouvements citoyens dont on va parler aujourd'hui et l'ensemble des dynamiques que l'on va évoquer aujourd'hui. Alors, Olivier et moi-même, nous répartirons donc de la manière la plus équitable possible la parole entre nos 4 intervenants. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Smokey, de son nom Serge Bambara, de son nom d'artiste Smokey, dont vous avez entendu la musique tout à l'heure quand vous vous installiez dans la salle. Smokey est un des fondateurs du mouvement Ballet Citoyen, qui, comme vous vous en souvenez, en octobre 2014, a été un mouvement qui a joué un rôle extrêmement important dans les mobilisations citoyennes qui ont amené la chute du président Blaise Compaoré. Alors, à côté de Smokey, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Didier Lalaye, dont le nom de scène, qui est aussi un slammer, un musicien professionnel, son nom de scène est Croque-Mort. Didier Lalaye est tchadien, et s'il peut être avec nous ce soir, c'est grâce à l'Université de Leiden qu'il a accueilli depuis quelques semaines pour des ateliers. Et donc je remercie aussi l'Université de Leiden qui a permis à Didier Lalaye d'être avec nous ce soir, une présence qui est très importante. Vous savez qu'on votait hier au Tchad, et donc vous savez aussi que la société civile tchadienne a du mal à faire entendre sa voix dans un pays où visiblement l'alternance au sommet de l'État n'a pas l'air d'être une préoccupation principale des dirigeants politiques. Alors à côté de Didier, Floribert Anzuluni, qui est congolais de la République démocratique du Congo, un des membres fondateurs du mouvement Filimbi, dont vous avez aussi entendu parler, ce mouvement qui a essayé de se mettre en place l'année dernière au mois de mars et qui a été aussitôt, il vous l'expliquera, qui a été aussitôt presque décapité puisque un certain nombre de ses membres fondateurs ont été arrêtés. 2 d'entre eux sont toujours en prison jusqu'à aujourd'hui à Kinshasa, et Floribert lui-même est en exil aujourd'hui en Belgique. Et puis, last but not least, le dernier sur la table, mais finalement le premier chronologiquement dans l'ordre d'apparition de ces mouvements citoyens, Aliou Sané, journaliste, membre fondateur de Yanamar au Sénégal, et qui est donc le mouvement créé en 2001, finalement sur le modèle duquel... 2011, pardon, sur le modèle duquel les autres mouvements se sont créés dans la foulée. Voilà, donc je les remercie infiniment tous les 4 d'être avec nous ce soir. Pour être avec nous ce soir, ils ont accepté de prolonger leur présence à Bruxelles de 4 jours, puisque leur semaine africaine au Parlement européen se terminait normalement vendredi. Et donc voilà, ils ont accepté de ne pas rejoindre leur pays, leur famille, leur travail de militant pour pouvoir vous rencontrer ce soir. Et je les en remercie infiniment. Merci pour eux.
Ce qu'il faut préciser d'abord, c'est que ces mouvements citoyens sont à l'origine des mouvements de résistance internes dans les pays, sont à l'origine des changements, et parfois ils appellent au secours l'Europe, qui arrive soit trop tard, soit trop faiblement, et qui n'a pas toujours la réponse adéquate. Donc il faut dire que ce sont des gens qui sont en première ligne dans les conflits internes qu'ils gèrent, dans les problématiques régionales qu'ils gèrent, et on va tout de suite essayer de comprendre, grâce à Aliou Sané de Yanamar, qui est l'un des premiers mouvements citoyens qui est né en Afrique de l'Ouest, c'était en 2011, Yanamar a été un petit peu l'initiateur de tous ces mouvements citoyens. Grâce à vous, Aliou Sané, grâce aux autres aussi, j'aimerais qu'on comprenne tout de suite quelles ont été les conditions qui ont permis à votre mouvement d'émerger. Racontez-nous l'origine de Yanamar, et c'est une question que je poserai aussi aux autres.
Okay, merci beaucoup. Merci, et surtout merci aussi à Marie pour cette initiative. Et encore merci pour l'invitation du Parlement européen. Ça nous a était très utile de partager la semaine dernière au Parlement avec d'autres qui étaient intéressés aussi par les thématiques que l'on aborde. Donc, le mouvement Yanamar, je dirais, est le fruit d'une longue sédimentation de lutte. De lutte, le syndicalisme sénégalais et tout. D'abord, même avant ça, à l'époque de Senghor, vers les années 68, et Mamadou Dia, qui était son second, quand il y a eu le conflit et que Senghor a institué le parti unique. Le parti unique, après, il n'y a pas eu d'opposition. Tout le reste de l'opposition était obligé d'être dans la clandestinité. Et c'est ce qui a été à l'origine de la gauche historique sénégalaise. Et c'est de là que le mouvement syndical aussi est né, qui s'est beaucoup battu. Et au-delà de ça aussi, la société civile, hein, nous n'avons rien contre la société civile classique, mais seulement nous, le terme mouvement citoyen ou surtout mouvement sociaux pour nous, est le terme qui nous va le plus, du moment où dans nos pays, le terme société civile est devenu galvaudé. Et surtout que nos différents pouvoirs, ils adorent ce terme-là parce que c'est une façon pour eux d'isoler certains acteurs et de leur dire, ben voilà, vous vous mettez de côté et voilà, vous devez être neutre. Alors que pour nous, mouvements citoyens et sociaux, nous estimons que parfois dans l'histoire de nos pays, il faut oser prendre position sur les questions de principe.
Donc vous revendiquez une certaine filiation avec toute la gauche sénégalaise qui a émergé dans les années 80-90.
Non, je me dis que c'est le fruit de cette longue sédimentation. Maturation. De lutte. Voilà, on n'est pas, excusez-moi, tombé du ciel et créé des choses, non. Mais il y a eu nos aînés, il y a eu des gens qui se sont battus pour la liberté d'expression, pour la démocratie. Et nous, peut-être, on est arrivé à un moment en 2011, janvier 2011 précisément. Nous avons pris le témoin. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et à un moment, il faudra qu'on donne le relais à d'autres, à nos jeunes frères, qu'ils continuent en tout cas ce combat. Donc, pour revenir aux origines de Yanamar, je dirais que Yanamar est né dans un contexte de crise profonde et d'une injustice sociale, surtout, au Sénégal en 2011. Je me rappelle que c'était dans un contexte où la vie était de plus en plus chère, le panier de la ménagère était de plus en plus dégarni, les femmes enceintes continuaient d'accoucher sur des charrettes en les acheminant à la maternité ou à des hôpitaux parce que le village n'a pas d'hôpital. Il faut aller à un autre village plus loin. Au moment où il manquait d'ambulances, au moment où l'université est fermée parce qu'il y a des grèves à n'en pas finir, au moment où les populations de la banlieue ploient dans les eaux des inondations. Et parallèlement à ça, on a un pouvoir qui est très arrogant, avec un groupuscule d'individus sans mérite parfois, qui accapare les richesses du pays et qui érige des futilités en priorité.
Donc c'était un acte de résistance, voilà, par rapport à un et pouvoir qui voulait se maintenir par rapport à...
Non, avant ça, parce que la candidature d'Abdoulaye Wade, tout ça, c'est bien après. Et il est bien que je l'explique comme ça pour que les gens le comprennent. Parce qu'entre ce que les médias peuvent dire après et ce qu'il y a réellement parfois, il y a parfois un fossé. Donc la candidature, c'est après. Mais avant ça, le mouvement est né dans un contexte de cette crise-là où les populations n'avaient plus... L'opposition politique était beaucoup plus préoccupée au renouvellement d'instances politiques. On était à une période préélectorale. Ils étaient plus dans une logique de se préparer à aller conquérir le pouvoir. Au moment où il y a eu toutes ces difficultés, au moment où, je le rappelle, le jour où on décidait de créer ce mouvement, la chambre dans laquelle on était, dans la banlieue de Dakar, n'était même pas éclairée parce qu'il n'y avait même pas d'électricité. Parce qu'il y avait des coupures de 24 heures. Donc face à ça, l'opposition ne disait rien du tout, alors qu'elle était censée porter ses revendications, exercer une pression sur les populations. Et nous, on discutait entre journalistes, artistes, rappeurs et d'autres amis. On s'est dit, mais écoutez quoi, on se bat avec notre plume de journaliste, on dénonce, vous dénoncez à travers votre musique, mais on en est encore là. Est-ce qu'il ne faut pas une autre façon de s'engager en créant quelque chose de réel? Du moment où les jeunes commençaient à s'énerver, à faire de la casse, à brûler des pneus, leur dire on est à quelques mois des élections. Au lieu de brûler des pneus et casser, est-ce qu'il ne faut pas créer quelque chose qui puisse cristalliser toutes ces frustrations et en faire une énergie positive? Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer...
Et donc, vous avez créé Yanamar à 4 dans une chambre sans électricité.
Six, hein, on était à, voilà, sans électricité. Il y avait une bougie pour éclairer la pièce. Et je me rappelle à l'époque, s'il arrivait qu'il y ait 12h, 13h sans électricité, quand le courant venait, il y avait de la clameur populaire dans les foyers, comme si c'était quelque chose qu'on leur offrait, alors qu'ils paient l'électricité, ils ont le droit d'en avoir parce qu'ils paient leurs factures. Donc c'est comme ça qu'on a dit, créons un mouvement alors. Parce que certains avaient dit parti politique, on a dit non, du moment où l'opposition actuellement n'est pas suivie par le peuple et tout. Donc créons quelque chose d'autre, c'est de là qu'est venue l'idée de créer le mouvement Yanamar. Et la première chose a été de dire à tous ces jeunes-là qui font de la casse, vous avez 18 ans, vous n'avez même pas de carte d'électeur. La meilleure manière de sanctionner le système, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales et de voter massivement et tout. Donc, il y a eu des jeunes qui se sont inscrits et tout. Donc, après, voilà.
Merci, Aliou. Je voulais poser la même question à Floribert Anouzouli. Racontez-nous les origines de Filimbi. Était-ce aussi une réaction face à une situation qui se dégradait ou plutôt une volonté de contrer un pouvoir qui tentait par tous les moyens et qui tente toujours, d'ailleurs, par tous les moyens de se maintenir?
Non, au départ, encore une fois, hein, c'est vraiment un petit peu comme le mouvement Yanamar. C'est l'expression d'un ras-le-bol, en réalité, au départ. C'est le ras-le-bol d'une génération. Une génération qui ne supporte plus que les décisions publiques, politiques qui sont prises agissent négativement sur cette génération. Une chose qui est intéressante avec Filimbi, c'est que ça prend toutes les catégories de cette génération. Vous avez dans Filimbi des jeunes activistes, vous avez des journalistes, vous avez des étudiants, mais vous avez également des cadres. Moi-même, je suis banquier et je suis l'un des fondateurs de Filimbi. Donc c'est vraiment une génération qui n'accepte plus que la mauvaise gestion des dirigeants, des gouvernants, les conséquences de cette mauvaise gestion. Et à un moment donné, cette génération dit « ça suffit, il faut que nous nous organisions, que nous soyons une force, que nous devenions une force pour contraindre ces dirigeants, pour contraindre ce gouvernement » à agir au bénéfice de la majorité de la population. C'est comme ça que naît Filimbi. Et en fait, de mémoire et de souvenir, l'un des actes qui nous a vraiment énormément touchés, c'était la dernière incursion de, je pense, c'était Nkunda ou Mutebusi, dans la ville de Goma. Les problèmes sécuritaires, comme vous le savez, au Congo, sont des problèmes assez importants, principalement dans l'est du Congo. Et c'était en fait l'acte de trop pour certains d'entre nous. Je me rappelle ce jour-là, à midi, on s'est retrouvés une dizaine d'entre nous, différents secteurs, frustrés, énervés de cette incapacité du gouvernement, des institutions, de défendre le territoire, de protéger les citoyens. Et donc c'est quelque chose qui... On va dire c'est le déclic un petit peu pour nous. Et les conséquences de la mauvaise gestion sont des conséquences sociales qui s'appliquent autant au cadre qu'à l'activiste ou à l'étudiant. Chacun à son niveau, mais en définitive... ces problèmes touchent un petit peu toute une génération, et une génération qui a d'autres méthodes, d'autres manières de faire les choses, une autre vision du monde, une ouverture au monde, une utilisation des technologies, qui voit les choses différemment que ceux qui sont là, en tout cas.
Voilà. Didier Lalaye, vous êtes l'un des initiateurs du mouvement IINA, qui veut dire, en fait, nous sommes fatigués, donc c'est une sorte de Yanamar tchadien. Est-ce que c'est aussi un ras-le-bol face à l'inaction de la classe politique tchadienne qui vous a poussé à vous organiser ?
Bon, d'abord, merci. Il faut retenir que Idriss Déby est au pouvoir depuis bientôt 26 ans. Et il y a toujours eu cette société civile, mais qui a commencé, en fait, à accuser un certain laxisme. Et il y a eu des mouvements comme « ça suffit » ou « trop, c'est trop » et, bien sûr, l'Union des syndicats du Tchad. Mais ces gens-là utilisent beaucoup plus le canal des intellectuels, bon, entre guillemets. Donc vous avez dans ces mouvements des chirurgiens, vous avez des docteurs en droit et tout ça. Mais ces gens-là ne savent pas comment on paye l'électricité à N'Djamena. Ils ne savent pas comment on paye l'eau. Et ils n'ont jamais peut-être été au marché de N'Djamena. N'Djamena qui est la capitale du Tchad. Et à ce niveau-là, la jeunesse était quelque peu en marge. Et ces hauts dignitaires passaient plus de temps à se protéger, à voyager à l'extérieur, à parler d'eux qu'à agir sur le terrain. Et donc, quand on sait aujourd'hui que Déby a récupéré tous les intellectuels, les universitaires, pour les utiliser contre le peuple. Maintenant, le mouvement IINA, et qui est né récemment, en fait, est beaucoup plus proche des jeunes. D'abord, ça commence par les artistes, des comédiens, artistes-comédiens, des artistes-musiciens et des joueurs de football, des gens qui sont bien connus et qui ont intégré le mouvement. Et ce qui se passe, c'est, comme le dit souvent Smoké, les intellectuels passent plus de temps à citer des philosophes que la masse populaire ne connaît pas. Et le pragmatisme est là, les problèmes sont là. La particularité du mouvement INA, c'est qu'on va vers les jeunes, on va dans les écoles, on va dans les marchés et en milieu rural pour, en fait, dire à la population que ce qu'elle vit actuellement n'est pas possible. Parce que le Tchad, aujourd'hui, est le seul pays pétrolier qui se retrouve au bas de l'échelle des classements des pays pauvres. Et c'est comme ça que INA est beaucoup plus écoutée maintenant, en ce sens que nous avons créé beaucoup de cellules et c'est devenu un peu comme une guérilla, donc un peu incontrôlable par le gouvernement. Et c'est à l'émergence des INA que, pour la première fois, le président Idriss Déby a accepté de négocier avec les jeunes. Voilà.
Smoké, vous avez fondé avec Samska Leja, notamment un autre rappeur, ce mouvement, le Ballet Citoyen, qui a eu...
Rasta.
Un Rasta, pardon.
Excusez-moi.
Un Rasta,
c'est un
Rasta, rappeur.
C'est un ballet à l'envers.
D'accord. C'est un ballet sur la tête. Justement, je voulais vous demander, l'art est-il un vecteur important, selon vous, pour la prise de conscience des citoyens et pour faire avancer ces combats ?
Tout de suite, je vous dirais que l'art n'est pas seulement un vecteur important, mais c'est un élément fondamental. En ce sens que, pour moi, l'art, c'est le véhicule de la transformation. Alors, s'il n'y a pas d'art, il n'y a pas de transformation. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas aussi de présentation adéquate pour le diffuser au niveau des masses populaires. Mais je vais faire un petit flashback sur les premières questions que vous avez posées pour expliquer que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que le professeur Cheikh Anta Diop, éminent historien sénégalais, disait que la nature ne revient jamais en arrière. Elle crée une espèce une fois et puis après, elle passe à autre chose. Elle ne va pas revenir en arrière pour recréer le chat ou la souris. Elle l'a fait une fois en passant. Donc la nature est la seule originale. Mais les politiques, eux, ils ont cette fâcheuse tendance à reproduire les mêmes schémas. Voilà. Eux, par contre, c'est tout le contraire de la nature. Ils font toujours les mêmes bêtises et donc il y a toujours les mêmes réactions. Donc ce qui a amené à la création de Yanamar comme de Filimbi, c'est la même chose, ou de INA, c'est la même chose qui a amené la création du Ballet Citoyen. Je dirais que c'est à cause d'une goutte. Une goutte qui ne déborde pas. On a un vase qui est plein. Pendant 27 ans, les gens en ont vraiment marre, ils en ont ras-le-bol, il y a de la souffrance partout, mais comme par magie, le vase ne s'écoule pas. On a l'impression que les politiciens ont un double fond en bas et qu'ils s'arrangent toujours pour rejauger le niveau. Et nous, on a testé ça à plusieurs reprises parce qu'on est même allé à l'université pour les 10 ans de Norbert Zongo. On avait lancé une pétition, le journaliste assassiné en 98, on avait lancé une pétition pour la réouverture de son dossier. Et quelle ne fut pas notre surprise dans le temple du savoir qu'est l'université de voir qu'il y a des étudiants qui refusaient de signer, qui avaient peur de signer. Et pourtant, on leur demandait même pas leur identité. Il suffisait qu'ils signent, c'était anonyme. Mais les gars te disaient qu'ils ont peur. Si c'est Norbert, eux, ils ne sont pas dedans. Vous voyez ? Et donc, il y a eu du chemin qui a été fait entre-temps dans cette prise de conscience parce que les gens se sont rendus compte à un certain moment qu'il y avait d'autres personnes qui se mettaient en avant, qui avaient peut-être plus à perdre, dans le sens où nous étions plutôt des figures connues. On voit des artistes connus qui passent à la télé, qui ne disent pas seulement « il faut se battre, il faut y aller » avec des jolis refrains reggae ou rap, « allons-y gaiement, fight the power » et puis après qu'ils vont fumer un pétard dans leur salon, avec leur doudou et qui empruntent leur Mercedes tranquille. Mais on a des gens qui passent le cap de la parole. Comme disait Indira Gandhi, qui disait que l'idée du bonheur pour lui, c'était lorsque l'action pouvait s'harmoniser, la parole pouvait s'harmoniser avec l'action, pouvait conduire à l'action. Et donc il fallait véritablement passer à l'action. Et le fait de voir à l'image de Thomas Sankara, qui a appliqué une politique pendant 4 ans au Burkina Faso, salvatrice, dans le sens où est très suivi par les populations, parce qu'il se donnait toujours un exemple. Quand il appliquait une mesure, il commençait par lui-même d'abord. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il fallait faire. Il faut se mettre au devant. Ce n'est pas qu'on n'a pas peur. On a peur, mais on n'a pas le droit de yoyi, comme on dit chez nous. On n'a pas le droit d'avoir la frousse quand on a cette jeunesse derrière vous. On est obligé de serrer les fesses et d'avancer. Voilà. Maintenant, cet art-là, je reviens à cet art en question. Comme je disais, il est fondamental. C'est ce qui nous permet de faire passer des messages derrière des formes ludiques. Vous voyez, si on annonçait un concert, je suis sûr qu'il y aurait plus de monde ce soir. Vous voyez, il y aurait certainement beaucoup plus de monde. Dès qu'on dit que c'est de la musique, c'est de la danse, c'est de la création, bon, c'est un peu notre hameçon à nous. C'est comme ça qu'on arrive à regrouper les gens, parce que tout le monde est au moins d'accord sur le fait que la musique ou l'art, c'est intéressant. Même si les gens peuvent ne pas aimer un type en particulier, en général, tout le monde est d'accord que c'est intéressant. Donc les gens viennent pour ça, et je vous assure, nos concerts, c'est des véritables meetings. Parce qu'entre les chansons, on fait jouer les musiciens en sourdine, on dit tout ce qu'on veut. Voilà, et ça nous permet effectivement de
donc
taper
là l'art est un
mal.
Vecteur essentiel pour la mobilisation à la base, pour faire venir les gens et pour qu'ils vous écoutent.
Pas seulement essentiel, capital. Je vous assure, si vous organisez la semaine de l'Union européenne, du Parlement, et que vous impliquez des artistes, et que vous faites un grand show, vous allez comprendre la différence.
Le message va être entendu. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été évoqué brièvement par Floribert, qui est la dimension des nouvelles technologies. Donc, cette génération-là, qui est une génération connectée, une génération, bon, pas toujours connectée à Internet, mais en tout cas, qui a des téléphones mobiles. Par les téléphones mobiles, on peut s'envoyer des SMS. Donc, des outils de communication qui n'étaient peut-être pas familiers ou qui n'existaient pas pour les générations précédentes. Aliou Sané, est-ce que cette dimension-là, des nouveaux outils de communication, est-ce que ces outils ont vraiment été un moyen d'appuyer votre lutte et de vous permettre de mener vos actions ?
Ok. En fait, en 2011, il faut dire, et on a été très souvent interpellés à l'époque sur ça, les gens essayaient de faire le parallélisme avec ce qui s'est passé en Tunisie, avec le printemps arabe et tout, parce qu'en Tunisie, Internet, les réseaux sociaux ont joué un rôle fondamental.
La révolution Facebook.
Voilà. Et nous, au Sénégal, il fallait voir que, contrairement à la Tunisie, seuls 10% des populations ont accès à Internet. Donc, les réseaux sociaux avaient joué un rôle, oui, certes, mais on s'est surtout, en termes de technologie, beaucoup basé sur les SMS. On avait une importante base de données qui nous permettait, en un clic, de pouvoir disséminer un message ou un mot d'ordre à des centaines et des milliers de Sénégalais en même temps. Et comme des mouvements comme ça, quand ça gagne en proportion et que les populations se retrouvent là-dedans et rallient la cause, même au sein parfois de certains services, comme même la société de téléphonie, c'est des Sénégalais parfois qui travaillent là-bas, qui aident à développer de petites applications qui permettent d'envoyer en un clic un message à plusieurs citoyens en même temps. Donc oui, les réseaux sociaux ont joué un rôle, mais en 2011, le Sénégal, côté réseaux sociaux 2011, n'était pas celui-là, mais surtout on a beaucoup utilisé... le SMS et puis les outils artistiques comme Soumoké l'a dit, parce que il y a des artistes aussi au sein de Yanama.
Oui, si vous permettez, oui. Parce que j'ai juste oublié de rajouter quelque chose d'important pour moi, c'est que en dehors d'être profondément attractif, l'art est aussi un catalyseur de non-violence, et c'est ce qui nous a permis aussi de gagner des victoires, parce que l'art c'est le seul. C'est le seul concept, enfin, c'est le seul pouvoir, c'est la seule catégorie de métier qui permet de pouvoir dire des choses sérieuses, parfois même dangereuses, sans pour autant que les gens s'arment ou bien s'entre-déchirent. Donc ça nous a permis aussi de minimiser la violence et puis aussi de calmer aussi les foules quand elles allaient trop loin sur le terrain. À maintes reprises, il nous est arrivé de dire non, ne jetez pas des cailloux, posez les cailloux à terre. Ou bien laisser ce CRS. On a attrapé un CRS ils ont fait une fausse manœuvre, là. Ils ont voulu faire un dérapage, ils se croyaient dans un polar. Et il y a un CRS qui est tombé sur la place de la Révolution. Et les gens l'ont fouillé, ils ont vu qu'il avait une pièce d'identité togolaise. Et on racontait à cette époque qu'il y avait des mercenaires togolais que Blaise avait engagés. Les gens ont failli lyncher ce monsieur. S'il n'y avait pas eu intervention, ils l'auraient fait. Et qui peut les arrêter si ce n'est des artistes? C'est des artistes qui peuvent dire ça et puis, ça passe. Mais quand c'est un leader politique, ça devient autre chose. Voilà.
Pour en revenir sur l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, les SMS, etc., on a l'impression que les pouvoirs politiques africains ont déjà compris. On l'a vu au Congo il y a 15 jours pendant l'élection présidentielle, les réseaux étaient coupés. On l'a vu hier au Tchad pendant l'élection présidentielle, les SMS et Internet ne fonctionnaient plus. Est-ce que vous avez des réponses à apporter ? Est-ce qu'il y a des contre-mesures à prendre, Floribert, par exemple ?
Oui, tout à fait. Les pouvoirs ont compris et nous avons également compris. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, très clairement, il existe des solutions sur lesquelles nous travaillons, que nous mettons en place pour passer outre ce qui se fait actuellement avec les coupures, la coupure principalement d'Internet. En RDC, je pense que le président Kabila est le doyen en la matière. C'est le premier à avoir utilisé cette coupure véritablement au mois de janvier dernier. Vous avez entendu parler des grandes manifestations qui avaient causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. Qui ont quand même été tués en pleine journée par l'armée, simplement parce que ces personnes ont refusé une modification d'un article de la loi électorale qui aurait permis au président Kabila de se maintenir. Mais depuis lors, bien évidemment, nous également, Mouvement Citoyen, nous travaillons assidûment sur des solutions alternatives qui existent et qui sont disponibles.
Alors, vos mouvements ont des actions qui sont des actions très visibles et qui sont des actions, je pense, qui sont connues de l'Assemblée, les manifestations, les mouvements de contestation. On a effectivement vu comment le Ballet Citoyen a participé activement à la chute d'un dictateur dans un pays comme le Burkina Faso. Mais au-delà de cette dimension-là, vos mouvements ont aussi un travail qui est peut-être plus souterrain, qui est moins connu à l'extérieur, qui est un travail de conscientisation de la jeunesse, de conscientisation des citoyens, de politisation quelque part. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de cette dimension qui est peut-être moins connue à l'extérieur de votre travail ? Bon, Yannamar, par exemple, qui est le premier, le plus ancien, et donc qui a développé toute une série d'activités qui sont peut-être moins visibles.
Ok, merci beaucoup. Justement, en mars 2011, nous avons lancé un manifeste qui, pour moi, est vraiment le manifeste qui est fondamental pour Yannamar. Il s'intitulait « Les bases de la République des citoyens pour l'avènement d'un nouveau type de Sénégalais ». Nouveau type de Sénégalais, pas par opposition à un vieux type qui serait pas bien, non. On rappelle juste, c'est un appel à se rappeler certaines valeurs et tout. Et selon nous, le NTS, comme on le dit, le nouveau type de Sénégalais, c'est ce citoyen-là qui est sentinelle de la démocratie. Le rôle qu'on a joué au niveau national a exercé une pression sur le pouvoir pour replacer les préoccupations du citoyen au cœur de son action et surtout peser de tout notre poids en ce qui concerne la troisième candidature de Abdoulaye Wade, contre laquelle on s'est battu, il y a eu 13 morts, on s'est battu, on est allé, on a continué la lutte aux urnes, Abdoulaye Wade a été balayé et il y a eu l'alternance. Donc ce rôle de sentinelle-là, faire en sorte que ce soit une action de tous les jours chez les citoyens, faire en sorte que partout dans le pays, qu'il y ait une certaine... arriver à l'émancipation d'une société civile de masse, que partout dans le pays, jusqu'à 800 km de Dakar, que les cellules de Yannamar et d'autres citoyens, globalement les citoyens, se posent en sentinelle locale, exercent une pression sur l'autorité locale, qu'ils se disent « j'ai un droit de regard sur comment marche ma mairie ». J'ai le droit de participer aux délibérations du conseil municipal, j'ai le droit de donner mon idée par rapport à comment marche ma communauté. Il y a cet aspect-là.
Mais comment est-ce qu'on arrive à ça ? Comment est-ce qu'on arrive à amener cette dynamique-là à 800
km
de Dakar ?
Ce qu'on a fait après la lutte et le combat ponctuel qui a été relayé partout dans le monde a commencé la chose la plus difficile. C'est de faire en sorte que ceci soit une réalité. On a travaillé sur un projet qu'on a appelé en langue locale « Dohak Sagoh », marcher avec sa communauté. C'est un observatoire populaire où partout dans le pays, on a organisé ces jeunes qui se retrouvaient à travers Yannamar, qui ont organisé des cellules qu'on appelle Esprit Yannamar. On les a organisées. On a fait en sorte qu'on a sillonné le pays. Ils se sont organisés. On leur a apporté de la formation. Parce que c'est vrai, le principal tort et la difficulté chez nous, c'est que nos leaders adorent surfer sur nos ignorances pour nous diriger. Donc ces jeunes ont été formés. Par exemple, vous allez à Kédougou où il y a de l'exploitation minière, où les multinationales s'implantent, pompent les richesses et sans aucun retour sur les populations locales en termes de travail, en termes d'infrastructures comme des hôpitaux et tout. Donc, et pourtant, il y a le code minier du Sénégal qui confère des droits aux citoyens, mais les citoyens ne le savent pas. Donc, par exemple, former ces jeunes, leur donner les infos comme quoi, en tant que citoyen organisé, vous avez le droit de mener des plaidoyers pour que ces multinationales, dans le cadre de leur politique RSE, puissent construire des hôpitaux pour vous, en termes de recrutement, que vous soyez la priorité. Des choses comme ça. La formation par rapport à... C'est quoi le budget municipal? Comment est-ce qu'on lit un budget en tant que citoyen? Et tout. Des choses comme ça. Il y a la formation. Et en même temps, on a initié ce qu'on appelait des jurys populaires, des jurys citoyens populaires. Donc, on en a tenu beaucoup durant cette année-là, où partout on va, on crée une rencontre entre les élus et les citoyens. Donc, c'est ça, cette plateforme-là, avec des citoyens qui soient des sentinelles locaux, qui exercent ce rôle de veille-là au niveau local, ça a été mis en place et ça continue. Et là, par rapport au NTS, le dernier point, qui selon nous a été le moins développé et qui est important au-delà de la veille et de la citoyenneté active, mais faire en sorte que ces jeunes qui se mobilisent pour une perspective de gouvernance, essayer de voir aussi... Comme pour la plupart, ils sont parfois désœuvrés, ils n'ont pas de métier ou ils ont un métier, ils ne peuvent pas l'exercer. Les mettre en commun pour qu'ils essaient de voir sur la base de leur richesse locale, qu'est-ce qu'ils peuvent créer comme richesse pour eux, pour pouvoir vivre. Donc il y a cet aspect de noyau d'initiative, une idée qu'on a lancée, sur laquelle on est en train de travailler pour organiser les jeunes aussi, qu'ils puissent ensemble travailler à créer des richesses à travers des activités génératrices de revenus. Donc ça aussi, c'est un aspect fondamental, mais qui est malheureusement moins relayé. Merci.
Donc la condition de la pérennisation de ces mouvements citoyens, de la durée dans le temps, c'est l'organisation à la base. Et à cet égard, le Ballet Citoyen a aussi connu des succès assez foudroyants. Je crois qu'à Ouagadougou, le CIBAL a combien de militants, Smoké?
Avant de parler éventuellement du nombre de militants, moi j'étais à Casablanca il y a quelques années au Maroc et j'ai rencontré un clochard dans la rue et qui m'a demandé une cigarette. Est-ce que je peux avoir une cigarette s'il te plaît? Et je lui ai dit ouais, je lui ai donné une cigarette. Il me dit pour te remercier, je vais te dire un petit secret. S'organiser, c'est gagner. Et là c'est resté dans ma tête. C'est resté dans nos têtes tant et si bien qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en apparence, on pourrait dire, bon, ces mouvements-là, est-ce qu'ils sont pas à la limite, ils font un peu tout et n'importe quoi. Non, on est organisé, on se réunit bien plus souvent que le Parlement européen et les gouvernements burkinabés réunis. En tout cas, au minimum, une fois par semaine, tous les jeudis. Voilà. Et un conseil restreint, et on a tout le temps, on essaie de mettre en place des actions. Et comme le disait Alioune, cette organisation, comment on arrive à convaincre quelque part nos militants de s'impliquer dans cette lutte-là, d'aller jusqu'au bout de leurs convictions? Nous n'avons pas les moyens des partis politiques. Eux, ils ont l'argent, le djaba, le gombo, comme on dit. Donc eux, ils vont aller sponsoriser des matchs de foot. C'est leur travail, c'est ce qu'ils font tout le temps. Ils donnent une coupe au quartier qui a gagné. Et puis ils vont aller payer, déposer du sucre dans tous les grains. Là, on fait du thé en Afrique. Ils vont donner du sucre aux jeunes, du thé, cadeaux, etc. Nous, on n'a pas ces moyens. Nous, on ne peut pas aussi distribuer des t-shirts. Nous, on vend nos t-shirts. Ce sont des t-shirts qui nous permettent d'avoir un peu d'argent en caisse. Donc, il faut, quelque part, leur apprendre à pêcher. Donc, effectivement, il faut susciter cette envie pour eux d'aller beaucoup plus loin que cela pourrait laisser paraître. Il n'y a pas... Nous sommes tous des leaders. On veut éviter qu'il y ait des individus qui soient incontournables, qui deviennent des gens sans qui on ne peut pas continuer la lutte. Donc tous les clubs CIBAL, ce que nous appelons les clubs CIBAL, c'est les cellules de base, CIBAL voulant dire citoyen balayeur, et CIBEL c'est le féminin, citoyenne balayeuse. Ces clubs CIBAL-là, ce sont des clubs de base qui sont installés dans les quartiers, dans les provinces, dans les villages. Ils sont regroupés en points focaux, qui sont au sein aussi des coordinations régionales, c'est-à-dire Ouaga, Tenkodgo, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des ambassades CIBAL. En Belgique, à Bruxelles, ici, il y en a une, etc., un peu partout en Europe. Et aux États-Unis, il y en a aussi. Donc, tous ces gens-là doivent avoir un certain calendrier d'action, y compris les formations, etc., que nous essayons de mettre en place avec eux. Nous utilisons beaucoup aussi l'outil cinéma, parce que nous avons remarqué qu'il est très efficace. On travaille en corrélation avec des cinéastes ou des boîtes comme Semfilm au ciné droit libre, et aussi des plasticiens, tout ce qu'on peut utiliser pour créer le débat. Avec des petits films didactiques, on arrive à faire comprendre, à cibler un problème et à en débattre après avec les populations. Et ça marche très bien, surtout s'il y a des artistes qui débattent à la fin du spectacle.
Mais Smoke, pour mener toutes ces actions-là, il faut des moyens. Donc comment trouvez-vous les moyens et comment vos mouvements peuvent-ils s'assurer des moyens suffisants pour fonctionner sans quelque part devenir dépendant de bailleurs de fonds, de partenaires extérieurs? Vous ne pouvez pas financer tout ça rien qu'en vendant des t-shirts.
Eh bien si, vous ne me croirez pas, mais les t-shirts ça marche bien. Mais il n'y a pas que ça. Bien évidemment, nous avons des cotisations ponctuelles, des cotisations annuelles. Mais par exemple, pour les cotisations ponctuelles, lorsqu'on décide, on budgétise, voilà, ce ne sont pas des actions qui coûtent très cher. Hein. Des actions de projection de films suivies de débats avec des artistes qui viennent pas avec leur groupe, mais qui essayent de faire une prestation artistique. On arrive quand même à faire des choses intéressantes, étant donné que même, par exemple, l'association Semfilm très souvent met à notre disposition du matériel gratuitement aussi. Il y a de la bonne volonté. Nous avons des imprimeurs qui nous offrent d'imprimer 10 000 flyers gratuitement, juste parce qu'ils veulent soutenir le mouvement, ils veulent soutenir ce combat, etc. Donc, pour ce type d'action, on arrive à s'auto-financer. Honnêtement, jusqu'ici, c'est ce qu'on a toujours fait et ça fonctionne. On demande aussi aux populations de temps en temps de contribuer quand il le faut, puisque nous mettons du carburant dans les véhicules, nous déplaçons avec un groupe électrogène, etc. Maintenant, là où on a besoin de financement, c'est pour des actions ponctuelles, des actions d'envergure, par exemple, comme la dernière campagne que nous avons menée, après ta révolte, ton vote, et je vote et je reste. Et le principe, c'était quoi? C'était de demander aux électeurs, pour les dernières élections qui ont eu lieu il y a quelques mois, au lieu d'aller voter et rentrer tranquillement chez eux comme si de rien n'était, eh bien, pour une fois, ils votent et ils restent sur place. Ils restent et ils participent même au comptage des voix. On demandait à tous les électeurs qui allaient voter, et notamment nos militants, de le faire. À tel point que ça a fait même un peu peur à un moment donné aux institutions, parce qu'ils se demandaient s'il n'y allait pas avoir des problèmes d'insécurité. On les a rassurés que non. Il y avait une certaine discipline quand même en notre sein. On ne recrute pas n'importe qui quand même. Non, mais sérieusement, ça s'est très bien passé. Et pour cette campagne-là, on a été épaulé par une ONG qui s'appelle Diakonia, qui travaillent dans les droits humains, et on met un point d'honneur à ce que ce soit très transparent. Donc on a rétrospectivement donné tous les détails sur notre page, comment l'argent a été utilisé, à quelle fin, etc., qui a eu quoi, etc. Tout est transparent, tout est clair.
Voilà. Aliou Sané, vous avez adopté à peu près la même méthode chez Yanamar, c'est-à-dire que vous comptez sur vos propres ressources, mais de temps en temps, sur des programmes ponctuels, vous faites appel à des bailleurs de fonds externes. Par exemple, vous avez des projets avec Oxfam ou avec Osiwa, à chaque fois sur des projets précis, pas sur un financement généraliste.
Non. Bon, je me rappelle de Thomas Sankara qui avait dit à une certaine époque, quand on lui posait la question, je crois que c'est Mitterrand qui lui disait bon, il fait de la coopération avec des pays comme la Chine, la Russie. On n'était pas très loin de la guerre froide. Bon, ça faisait pas, le souvenir n'était pas si lointain que ça. Et ce à quoi il avait répondu que lui, il refuse pas l'argent qu'on lui donne. Que ça vienne de Russie, de Chine, du Japon ou bien de Mars. Et l'essentiel, c'est qu'il puisse l'utiliser pour le mettre au service de ses objectifs et de la révolution démocratique et populaire de l'époque. Donc, Je dirais que nous, on fait très attention au financement, ça c'est sûr. La provenance est très importante pour nous parce qu'on doit pouvoir se justifier, on doit pouvoir dire déjà d'où provient cet argent exactement et qu'est-ce qu'on en a fait. Jusqu'ici, pour l'instant, c'est le seul financement qu'on a reçu, c'est celui dont je vous ai parlé, mais tout se déroule plutôt bien. S'il y a des organismes de droits humains qui travaillent à l'amélioration des conditions et que des vies des populations africaines, et que c'est sincère, qu'il n'y a pas d'agenda caché derrière, je ne vois pas pourquoi on refuserait d'utiliser cet argent-là pour le mettre au service de cette cause, qui, à mon avis, est simplement noble.
Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, on a parlé de l'argent, on va parler d'un autre sujet qui fâche. Oui, peut-être Aliou Sané.
L'argent, c'est important, c'est une question très importante pour nous et qui est d'actualité. Et je pense que c'est l'une des questions qui seront abordées. On a à cœur d'organiser l'université de l'engagement citoyen. Parce que nos frères là, on se rencontre ici parce que le Parlement nous a invités. Selon son agenda et tout, on s'est rencontrés ailleurs parce que d'autres nous ont invités. On a à cœur de nous retrouver, nous, dans nous, pour aborder certaines questions. Parce que c'est un phénomène nouveau des mouvements comme ça. La question du financement, il faut qu'on en parle pour voir quels peuvent être les mécanismes. Mais en attendant, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que pendant toute la période de la mobilisation, les gens nous ont dit, mais waouh, que combien de milliards avez-vous eu pour faire partir WAD ou pour... On leur a dit non, pourtant, si vous voyez, on a, c'est de par une certaine génie, la jeunesse peut réaliser des choses extraordinaires, sans moyens, avec les t-shirts que l'on vendait. C'est vrai, le t-shirt peut coûter 5 000, mais vous voyez un Sénégalais qui met 50 000. Il dit, c'est ma façon à moi de vous soutenir. Et après, les outils qu'on a développés, ce n'était pas coûteux, c'est les concerts pédagogiques, c'est les Urban Guerrilla Poetry et tout. C'est, on rentre dans un bus qui fait tout le tour de Dakar et plein d'autres outils comme ça qui ne sont pas coûteux. Mais après ça, on a eu l'idée de ce programme-là, de Haxagor, faire en sorte que partout dans le pays, que l'on organise les jeunes, qu'ils aient de la formation. On a fait tout le Sénégal avec ce programme-là, où il faut un véhicule. On est 3 ou 4 personnes à quitter Dakar pour aller à 800 km de Dakar, passer 3-4 jours avec les jeunes, jusque dans les villages, faire des ateliers de formation avec eux, que les artistes essaient de voir les artistes locaux pour des ateliers d'écriture, de rap engagé, quelque chose comme ça, prendre parfois des intervenants à Dakar, les amener jusque dans les coins les plus reculés, les activités de mobilisation, le site qu'on développe. Il faut des sous pour ça. Et pour ça, moi, j'ai été chargé, à côté du mouvement Yanamar, comme mouvement social fort dans la mobilisation et tout, de mettre en place une petite unité composée de volontaires du mouvement qui ont les compétences en matière de conception, de rédaction de projets. Donc, c'est nous qui avons travaillé sur ce projet-là, qui a consisté à mettre en place ces cellules de l'Observatoire. Et justement, on a pu bénéficier d'un financement de Oxfam sur 2 années. Sur les 7 régions, et quand on a commencé à dérouler et que ça a commencé à faire écho, Osiwa aussi est venu pour les 7 autres régions. Donc pour l'instant, pour ce projet ponctuel-là, nous avons pu bénéficier du soutien de ces institutions-là. Mais encore une fois, sur la question globale du financement de ces mouvements sociaux-là, des financements viables et tout, je pense que le débat est ouvert et on aura l'occasion, nous, de voir est-ce qu'on peut avoir d'autres mécanismes de financement. Ah, oui. Du moment où, il faut le dire, aujourd'hui, ces mouvements souffrent, entre guillemets, beaucoup de... En fait, les gouvernants, ils se fondent sur ça parce qu'ils ne peuvent pas récupérer ces mouvements-là, parce qu'on a refusé d'être récupéré par les systèmes. Au moment où, je le dis, quand Macky Sall, par exemple, est venu au pouvoir au Sénégal, il nous a proposé de venir prendre des postes. Fadel Barrow aurait pu être ministre de la Jeunesse et de la Citoyenneté. J'aurais pu être dans une belle planque avec un salaire de 4 millions de francs CFA, il n'y a pas de souci. Mais je n'aurais pas eu le privilège d'être avec vous ici parce que je serais ailleurs. Donc c'est des mouvements qui ont refusé d'être récupérés par le système. Et le système essaie maintenant de nous diaboliser, de nous décrédibiliser.
Oui, parce ça c'est important, parce que vous êtes effectivement très régulièrement sali, traîné dans la boue, on vous fait des procès d'intention sur l'utilisation de votre argent.
Voilà, encore que, et ça il faut que je dise aussi, déjà ils disent ils sont corrompus par l'étranger, c'est l'étranger qui est derrière eux, c'est des lobbies homosexuels, c'est des lobbies de narcotrafiquants, c'est Soros qui est derrière eux, qui les manipule. Et à chaque fois que j'entends des choses comme ça, je me dis, il n'y a pas pire insulte que l'on puisse faire à une jeunesse. Penser qu'une jeunesse ne peut pas réfléchir d'elle-même, entreprendre des choses et y aller. C'est vraiment dommage, quoi, quand je vois des choses comme ça.
Camarades, quand ils financent les rappeurs français et américains à coup de narco-dollars, là, il y a beaucoup de... Je connais beaucoup de mes camarades qui sont financés par le trafic de drogue. Ou Frank Sinatra lui-même, qui a été... c'est connu, était financé par l'argent de la drogue, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est des organismes dont c'est la base, justement, de financer le type de structures qui vont aider les populations, on crie au scandale. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Donc,
Et pour terminer par rapport à ça, nous, par exemple, le mécanisme qu'on a mis en place pour la gestion financière, parce que c'est vrai que le risque avec des mouvements sociaux comme les nôtres, avec des projets comme ça, tout ce qui est gestion financière et tout, ne pas s'alourdir. On a évité de nous alourdir dans l'administration, la gestion des fonds. Ce qu'on a fait, c'est que quand on a reçu ces financements-là, on avait un partenaire qui est une ONG. Moi, je travaille à ENDA Tiers Monde. Il y a un programme d'ENDA qui a un service qui a du métier en matière de gestion financière. Et j'ai pu user de ça pour leur dire, mais vous faites dans le leadership, la formation. Vous nous avez toujours dit, en quoi est-ce qu'on pourrait vous aider, Yanamar, en matière d'accompagnement. Donc, on a vu ce programme qui nous a permis, on leur a confié toute la gestion financière, toute la paperasse et tout. C'est, voilà, donc c'est eux qui font tous les rapports financiers et tout. Donc de ce point de vue, ça nous a permis de ne pas nous alourdir par rapport à la gestion financière. Et ce qui nous permet d'avoir des rapports financiers et tout qui puissent être partagés par rapport à l'utilisation qui a été faite des fonds. Donc merci beaucoup.
Donc on a parlé de l'argent, on va parler d'un autre sujet qui fâche, c'est les rapports avec les partis politiques. Floribert, par exemple, je me tourne vers vous parce que vous avez fait une alliance ponctuelle dans le cadre de l'année 2016 avec des partis politiques. Faut-il que les mouvements citoyens s'allient aux partis politiques? Faut-il des alliances ponctuelles? Est-ce risqué? Est-ce naturel? Donnez-nous votre point de vue.
Absolument. Cette question est assez intéressante et importante parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et d'inquiétudes de la part de certains sur ce point-là. Et nous disons qu'il y a justement, en tant que citoyens, des questions d'intérêt national qui dépassent complètement le statut de politicien ou de non-politicien. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, la question de l'alternance et du respect du principe de l'alternance va au-delà des partis politiques, va au-delà des organisations politiques. Tout citoyen, normalement, devrait être capable de défendre ses intérêts. Donc pour cette question-là exclusivement, effectivement, nous, le mouvement Filimbi, Lucha et d'autres, nous sommes associés au sein d'une même plateforme qui s'appelle le Front Citoyen 2016 pour agir ensemble de manière non-violente, démocratique, légale, mener des actions ensemble, mettre nos stratégies ensemble pour permettre à ce que cette alternance ait lieu. Et donc oui, nous disons, il y a des questions d'intérêt national. Il y a un exemple que nous donnons toujours généralement à Lingala, c'est sur une maison dans laquelle vous avez une famille, dans laquelle vous avez une famille africaine, sont très nombreuses en général, une dizaine d'enfants. Et parmi ces enfants, vous pouvez avoir des avocats, des bandits, des trafiquants de drogue et autres qui vivent dans la même maison. Mais à un moment donné, lorsque le feu prend dans une partie de la maison, disons au salon, et que dans cette partie de la maison, tous ces enfants se retrouvent, ben il est essentiel que les frustrations, que les conflits, que le problème que les uns et les autres ont, des problèmes de fond, soient un petit peu mis de côté pour que nous éteignions tous ensemble ce feu. Et ensuite, nous reprendrons, chacun reprend sa position. C'est un petit peu ça que nous disons pour la RDC.
Oui, aujourd'hui, l'union fait la force, mais est-ce que vous ne courez pas le risque d'être instrumentalisé?
Ben, encore une fois, le risque est là, mais... Le fondement même de nos mouvements, en fait, empêche. Il y a des partis politiques qui essaient de nous instrumentaliser. C'est clair, des mouvements, des structures politiques essaient de nous instrumentaliser. Mais encore une fois, je pense que le soubassement de ces mouvements rend difficile cet exercice. Ce que nous faisons comprendre simplement aux partis politiques, c'est que nous vous serons plus utiles en restant complètement indépendants. Les citoyens ont besoin, pour s'engager et se mobiliser, de voir également qu'il y a cette alternative, cette jeunesse qui est indépendante et non politisée. C'est même la base, finalement, de notre engagement sous cette forme de mouvement citoyen. C'est pour se différencier un petit peu. Quand je dis non politisé, c'est non
engagé dans le politique.
Non partisan. Voilà. Non partisan, c'est effectivement, c'est important ce que tu dis. Non partisan, c'est-à-dire nous ne servons pas les intérêts d'un mouvement politique ou d'une organisation politique. Mais c'est essentiel de se rassembler.
Didier Lalaye, je voulais vous poser un peu la même question. Est-ce qu'au Tchad, une organisation non partisane qui ne brigue pas de mandat électif peut faire alliance avec des hommes qui souhaitent devenir des députés ou des présidents sans risquer d'y laisser son âme?
Bon, moi, je pense que pour ce mouvement qu'on appelait mouvement citoyen, bien sûr, c'est d'abord que c'est apprendre à réfléchir de nous-mêmes. Et nous avons cette soif de l'alternance. Et sur ce coup, il faut être réaliste, parce que nous n'avons pas de candidat au présidentiel. Et nous n'appelons pas non plus à voter pour un candidat particulier. À la base, quand on a commencé, tous les partis politiques, en fait, ne s'intéressaient pas. C'était toujours un mouvement de jeunes qui utilisaient Facebook et puis Twitter et consorts. Mais à la fin, quand on a commencé, nous, à nous en prendre, non pas seulement au président Idriss Déby, mais aussi aux opposants, parce que c'était vraiment un silence, c'était une léthargie. Et à ce moment, On a vu l'émergence des comptes Facebook des opposants qui ont d'abord tenté, et qui nous ont d'ailleurs, qui ont reçu, pas moi personnellement, mais qui ont reçu des leaders de ces mouvements de jeunes et qui, à un moment, voulaient, bien sûr, participer vraiment activement à nos mouvements. Mais on a dit, c'est pas du tout ça. Nous, on ne veut pas avoir d'amis. On ne veut pas avoir d'amis et quand on fait des concerts, les chefs des partis politiques, ils sont là, ils viennent au concert. Donc, à ce moment, ils pensaient, en fait, que nous, on était des opposants de sorte qu'on allait voter pour eux. Mais non, nous, on avait besoin d'un candidat. On n'avait pas besoin d'un candidat en particulier, mais on avait besoin de celui qui pouvait barrer la route à Idriss Déby. Et donc, pour avoir l'alternance, il faut avoir un candidat, bien sûr. Et les derniers meetings, nos meetings et nos concerts étaient au début plus remplis que le meeting des opposants. Et depuis qu'ils ont commencé à suivre ces mouvements, à aller visiter nos leaders en prison, le dernier meeting de l'opposition a rassemblé beaucoup plus de monde que le meeting de Déby lui-même. Et c'est ça, en fait, qui a fait croire aux Tchadiens qu'ils pouvaient avoir l'alternance. Et nous avons demandé à chaque citoyen, au début, c'était que les élections au Tchad, ça n'intéressait personne. Mais aujourd'hui, on a senti qu'il va se passer quelque chose. Et le vote, les élections, cette fois-ci, ont battu le record de, comment on appelle ça déjà en termes, de participation. Voilà.
Alors, toujours sur cette thématique du lien avec les partis politiques, Smokey, au Burkina, vous avez été vraiment à l'avant-plan de l'insurrection, de la révolution burkinabé en octobre 2014. Et puis après, le Ballet citoyen a été approché pour participer aux institutions de la transition et a refusé. Vos membres ont refusé. Alors, est-ce que il est possible vraiment de peser sur la politique sans s'y engager ? Est-ce qu'on peut se permettre de rester à l'extérieur du système, comme le fait le Ballet citoyen, dans ce rôle de sentinelle et avoir un vrai poids sur la mise en place de politiques qui vont être mises en place, qui ont été mises en place pendant la transition ou qui vont l'être par le gouvernement actuel ?
Bon, si le système politique ne change pas, non. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que oui, bien évidemment, si on reste à notre place, on ne peut pas être à la fois juge et parti. On se considère comme des sentinelles des règles du jeu démocratique. On ne peut pas être à la fois gardien d'une maison et puis habitant et propriétaire de la maison. Dès lors que vous rentrez dans votre salon, qui garde la maison ? Donc c'est vrai que, de ce point de vue-là, tant qu'on restera à l'extérieur, on aura effectivement suffisamment de recul pour pouvoir, et suffisamment de crédibilité surtout, pour pouvoir entraîner du monde derrière nous et pour pouvoir prendre des positions courageuses. Maintenant, si nous ne travaillons pas à une relève de cette vieille classe politique rampante, etc., eh bien, à un moment donné, effectivement, ça va devenir compliqué. Même avec toute la mobilisation du monde, le système va réussir d'une manière ou d'une autre à nous phagocyter. Nous disons que nous allons continuer cette résistance et nous allons susciter l'éveil de cette jeunesse-là, de cette conscience-là, de façon à ce qu'elle s'implique de plus en plus dans le politique. Parce que jusqu'ici, les jeunes disent quoi ? La politique, c'est de la merde, les politiciens, c'est des menteurs, etc. Les gens ne rêvent pas. J'ai jamais entendu un enfant dire à son père, « Papa, un jour, je voudrais être politicien. » Personne ne pense à ça. On pense à tout sauf à ça. Et pourtant, il faudrait que dans les quelques années qui arrivent, des enfants puissent dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on assiste effectivement, tant que ce sont les mêmes qui gèrent le pouvoir. Moi, j'ai toujours dit, vous prenez l'homme le plus honnête du monde. Vous le mettez à côté d'un trésor. Si personne ne regarde, au bout d'un moment, il va puiser. Il va puiser dedans, mais c'est humain, c'est normal. Donc les politiques, au bout d'un moment, à force de les observer aussi, vous aussi vous fatiguez, les sentinelles fatiguent. Il y a des moments où tu baisses la garde et puis on en profite. Donc c'est important de contribuer aussi à changer le système. C'est-à-dire qu'il faut faire deux fronts. Le premier front, c'est celui qui surveille, qui met la pression, mais qui aussi fait des propositions concrètes. Et le deuxième front, c'est celui qui suscite les candidatures de cette fameuse relève-là, cette jeunesse politique qui va pouvoir créer ce changement au service des objectifs que nous menons et que nous envisageons.
Alors, on a fait un parcours qui est un parcours, je dirais, assez optimiste. On a vu tout ce que vos mouvements peuvent apporter aux transformations de la société. Je voudrais peut-être qu'on évoque des scénarios qui sont des scénarios un peu plus complexes. On a vu au Burundi des jeunes se lever par centaines, s'organiser, se mobiliser dans les quartiers. Ils ont été réprimés dans le sang. Voilà, aujourd'hui, on a un bilan d'à peu près 500 morts. Donc, on a envie de dire que ça ne marche pas partout. Donc, je voulais vous interpeller tous sur la situation de répression que peuvent connaître vos mouvements. Et donc, jusqu'où faut-il aller ? Il faut aller jusqu'à pousser ces jeunes à donner leur vie pour ce combat. Floribert, il y a eu plusieurs emprisonnements au Congo. Qu'en pensez-vous ?
La première des choses...
Comment se protéger aussi de cette violence de l'État contre les mouvements citoyens ? Comment s'en prémunir ?
La première des choses, effectivement, à dire, c'est que les environnements ou l'environnement de tout un pays est particulier, de chaque pays est particulier. Ce qui s'est passé au Sénégal, on avait un régime qui n'était pas militaire, qui était un régime civil. Au Burkina, on avait un régime militaire plus ou moins structuré, comme on dit toujours, nous. Et au Congo, on a un régime militaire, par exemple, qui est complètement déstructuré, incontrôlé et extrêmement répressif. Et donc, effectivement, les techniques et les modes d'action ne seront pas les mêmes au Sénégal, au Burkina, qu'en République démocratique du Congo. Ça, c'est une réalité. Chez nous, par exemple, aujourd'hui, nous avons depuis plus de 12 mois, la sortie de Filimbi, deux jeunes qui sont toujours...
Quand ça chauffe, c'est vous rentrez dans la forêt. Chez nous, il n'y a pas forêt.
Voilà. qui sont toujours... Non, mais très sérieusement, qui sont toujours détenus aujourd'hui, emprisonnés. Ils ont passé entre 50 et 60 jours dans des cachots secrets, des jeunes de 25 à 31, 32 ans. Ensuite, depuis 12 mois aujourd'hui, ils sont emprisonnés, accusés de tentatives de coup d'État, renversement des institutions et tout le reste. Vous avez, il y a quelques semaines, une vingtaine d'autres jeunes de la Lucha qui ont été interpellés, arrêtés. 6 ont été condamnés à 6 mois de prison pour avoir participé simplement à une journée ville morte. Donc vous comprenez le niveau de répression, effectivement.
Mais alors, Filimbi a été décapité, Lucha est régulièrement menacé. Est-ce que vous avez adopté, est-ce que notamment Lucha a adopté des modes d'action clandestines ?
Ben oui, mais quand on dit décapité, je dirais non, parce que depuis le 15 mars, justement, malgré cette répression qui est très forte et qui continue, la jeunesse continue à se mobiliser et le nombre de jeunes mobilisés continue à augmenter. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de maintenir la pression sur les institutions. Et voilà, donc je ne pense pas qu'ils ont décapité ni Filimbi, ni Lucha, ni la jeunesse. Je pense plutôt qu'ils nous ont indirectement rendu un service. Simplement, c'est que ça a permis à ceux qui n'étaient pas forcément engagés à ce moment-là de ça a suscité auprès de ces jeunes-là également un réveil, on va dire, en quelque sorte. Oui.
L'une des réponses que vous pouvez apporter justement face à la violence institutionnalisée, c'est la mise en réseau de vos différents mouvements. Parlez-nous un petit peu de cette expérience qui a consisté justement à créer, ou qui consiste à créer en ce moment, un réseau panafricain de mouvements citoyens, peut-être à Lieu-Séné.
Oui, très bien. Moi, je voudrais déjà, sur l'autre question, je voudrais apporter quelque chose pour dire que oui, c'est vrai, les contextes diffèrent. Nous, on était au Sénégal il y a un an, en mars dernier, on était allé au Congo pour le lancement de Filimbi et on s'est retrouvé en prison pour 3 jours. C'est vrai, on nous a relâchés, mais nos frères restent là-bas. Au Burundi, vous avez vu ce qui se passe là-bas. Donc les réalités diffèrent. Mais nous continuons avec cette synergie à mener ce plaidoyer. Mais il faut dire aussi que des institutions comme le Parlement européen, je ne parle même pas de l'Union africaine, ça, bon, on s'en occupe. Mais le Parlement européen... Mais le Parlement européen aussi devrait voir d'un autre œil. Et j'espère que cette conférence et ces rencontres vous permettront d'apprécier en fait ces nouvelles dynamiques et ces nouvelles réalités qui se passent en Afrique. Parce que je vois mal déployer des observateurs, ça je l'ai dit et je le réitère parce que ça nous tient à cœur. Je vois mal le Parlement européen ou l'Union européenne déployer des observateurs au Burundi pour des élections alors que le président il n'est pas censé se présenter aux élections. Alors qu'il tripatouille la constitution de chez lui pour rester. Oui, malheureusement et naturellement, j'ai compris que quand ils sont allés là-bas, ils étaient dans une position très inconfortable parce qu'ils restaient et laissaient le scrutin se dérouler. Vouloir observer ce pseudo-scrutin, c'est en quelque sorte donner un crédit à cette forfaiture-là que Kourou-Diza est en train de faire au Burundi. Donc oui, ça, c'est important.
Quelquefois, pour critiquer un scrutin, surtout quand on est européen, il faut avoir été présent et l'avoir observé.
L'avoir.
Et surtout en amont. C'est ce qui s'est fait au Congo, par exemple.
Voilà, c'est bien parce qu'il y a eu cette situation où finalement on se disait est-ce qu'il fallait rester tout. Voilà. Voilà. Donc c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, premièrement, c'est ça. Et même en matière d'observation électorale, vous voyez, la technologie, elle avance. Nos présidents aussi, ils avancent. Vous arrivez à 2-3 jours du scrutin, une semaine, alors qu'il y a un important boulot, même par rapport à nos fichiers électoraux. Vous devez pouvoir beaucoup plus vous impliquer sur ces choses-là. Si l'idée, c'est d'appuyer et tout, les fichiers électoraux. Aujourd'hui, au Sénégal, on parle de la refonte du fichier parce qu'il y a des milliers et des milliers de morts, mais qui votent quand même. Donc, toutes ces questions, il faut que des institutions comme les vôtres, il faut être au fait de ça. Et pour le Burundi, voilà, et les autres pays africains.
Mais donc, je crois qu'il faut aussi préciser que les observateurs européens, par exemple en Guinée, moi je les ai vus travailler de près en Guinée, n'ont pas toujours la latitude d'accéder aux fichiers électoraux, n'ont pas toujours la possibilité de mener des missions longues en amont, et quand ils le peuvent, on leur met régulièrement des bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un monde pur et parfait où ils arrivent en disant toutes les portes nous sont ouvertes et on peut tout voir. C'est pas aussi simple que ça pour...
Si, c'est pas simple, c'est la réalité des faits jusqu'ici. Même par rapport à nous dans nos pays, il y avait une réalité des faits, mais il y a quelque chose de nouveau, il faut s'adapter à ça. Je trouve, c'est ça, vous faites un travail, mais je pense que c'est des éléments qu'il est important qu'on vous donne pour que même vous, par rapport à vos orientations sur ces questions-là, que vous preniez en compte, ça ne peut être que bien.
Non, moi, donc, je pense aussi que de mes expériences des élections en Afrique, à part la Côte d'Ivoire, j'ai jamais entendu des observateurs internationaux dénoncer des fraudes massives pendant les élections, à part la Côte d'Ivoire. Là, j'assume ce que je dis. Parce que déjà, la tendance en Europe ici donne Idriss Déby vainqueur avant même la fin des élections. Et ça a été pour moi un choc après tout ce qu'on a vécu. Et après, on était à 2 jours de fermeture, à 2 heures de fermeture des bureaux. Ça ne pouvait pas être le cas. Et sur toutes les télévisions en Europe, moi, quand je regardais hier, j'étais très choqué parce que sur France toutes les télévisions... Oui, France 24 qui donnait Déby largement vainqueur et qu'il n'y a jamais eu... que ça, c'était vraiment des élections transparentes avec beaucoup de rigueur et tout. Et le même soir, il y a TV5 qui fait un reportage et qui montre comment les Tchadiens ont été empêchés avec vidéo à l'appui. Et la police qui était descendue sur le terrain pour mater tous les électeurs qui voulaient voter, la caméra de TV5 qui a été arrachée et gardée au commissariat central de N'Djamena. Et avec tout ça, les tendances en Europe donnent Déby déjà largement vainqueur. Donc aujourd'hui, les observateurs internationaux, pour moi, c'est un non-événement en fait.
Pour terminer par rapport à cette question, mais vraiment pour terminer, il faut dire aussi que ce qui est clair, c'est que face à ces problèmes-là, aujourd'hui, les citoyens, ils n'attendent pas exclusivement l'aide de l'étranger. Quand à la veille du passage de cette fameuse loi du président Abdoulaye Wade à l'Assemblée pour se faire réélire avec 25% des suffrages, quand on est venu dans une grande salle comme ça et qu'il y avait l'opposition à la veille du passage de la loi, qui tenait la réunion pour dire on va faire une lettre à l'ambassade des États-Unis, on va faire une pétition à déposer à l'Union européenne, on va. On a pris le micro, on leur a dit mais il faut arrêter. Ce problème-là, c'est nous qui le réglerons, nous Sénégalais. Il faut y mettre du sien d'abord, montrer à quel point on est déterminé à sauver la démocratie de notre pays et après d'autres viendront se joindre à nous. Donc c'est dire qu'on ne reste pas les bras croisés, nous estimons que la chose c'est pas d'attendre tout des autres, mais nous on fait ce qu'il faut. Mais maintenant il est important qu'on vous dise en quoi est-ce qu'on voudrait que vous vous appuyiez en fait ces nouvelles dynamiques-là. En fait c'est ça le sens de notre discours.
Je voudrais donner la parole à une représentante de la diaspora burundaise ici, très impliquée dans les mouvements qui se sont développés au Burundi ces derniers mois. C'est vrai qu'il n'y a pas de représentant du Burundi sur le panel aujourd'hui, qu'on aurait pu en mettre un. C'est vrai que c'est un pays dans lequel la jeunesse s'est levée depuis le mois d'avril dernier et a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, durement réprimée. Donc il y a aujourd'hui des milliers de jeunes qui sont en prison dans des conditions sur lesquelles on ne connaît pas grand-chose. Et donc, voilà, je pense que c'était important ce soir de permettre au Burundi d'être quand même présent sur le panel d'une certaine manière. Et donc je donne tout de suite la parole à Juliette Nijembiré.
Merci beaucoup, Marie-Soleil. Merci à vous, chers compatriotes, chers concitoyens. Je suis enrichie avec tout ce que vous venez de dire. Et je pense que les Burundais qui sont dans la salle sont aussi enrichis et peuvent redémarrer, reprendre le mouvement qui a commencé il y a presque un an. Bientôt, on va fêter la résistance burundaise le 26 avril de cette année. Ça a commencé avec le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Le troisième mandat qui est actuellement, j'ai l'impression, que le monde entier légitime. Parce qu'on ne parle plus du retrait de Nkurunziza. On parle de négocier avec Nkurunziza. On parle d'un gouvernement burundais et d'un gouvernement, quand on dit un gouvernement, il est là, il a été élu par le peuple. Or, il a violé les accords d'Arusha, il a violé la constitution, il a violé toutes les lois qui régissent les élections dignes, les élections légales. Donc, il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. On devrait commencer par là et ne pas oublier ce qui s'est passé dans les rues de Bujumbura avec cette jeunesse qui disait qu'ils n'étaient pas des esclaves. C'était le terme, les Burundais le savent très bien, ils disaient « Sindumuja ». « Sindumuja », ça veut dire « on n'est pas esclaves ». Et c'est un peu les mêmes appellations comme Yanamar, comme le Ballet Citoyen, comme Filimbi, comme Iyina. Mais vous savez ce qui s'est passé. Depuis avril, ils ont manifesté, les jeunes. Et le premier jeune sur qui on a tué, il avait 15 ans. Il avait 15 ans, il avait les mains en l'air. Et les parents étaient là, dans leur maison. Ils ne sont pas sortis pour aider ces jeunes qui étaient dans les rues. Le 10 mai, il y a un mouvement de femmes qui est descendu dans les rues. Les femmes toujours courageuses. Les femmes qui donnent la naissance, qui donnent la vie. Elles ont senti que leurs enfants étaient menacés. Elles sont descendues dans les rues. Depuis le 26 avril, il n'y avait personne qui pouvait arriver au centre-ville, même ces jeunes. La police tirait sur eux à balles réelles. Mais le jour où les femmes se sont déployées dans les rues de Bujumbura, elles sont allées jusque devant la présidence. Donc, vous comprenez la force de la femme. Maintenant, ces jeunes, depuis, ils sont persécutés. Il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont tués. On dénombre des milliers de jeunes qui sont morts. On dénombre des centaines de milliers de jeunes qui sont dans les prisons. On dénombre des centaines de milliers de jeunes qui sont dans les camps de réfugiés. On dénombre des centaines de milliers de jeunes qui sont cachés, qui sont terrés dans les maisons et qui ne peuvent plus sortir pour faire ce que vous faites, vous. Vous, les jeunes qui avez l'espace pour sensibiliser, pour organiser, pour former, eh bien, ces jeunes n'ont pas cet espace-là. Alors, je suis venue, on est venue à plusieurs. Il y en a beaucoup dans la salle. On est venu apprendre de vous et on est venu vous demander comment faire, comment raviver cette flamme. Parce que cette flamme de l'année dernière, elle est en train de s'éteindre petit à petit. On a besoin d'une jeunesse. Je vois les jeunes Burundais. Levez-vous. Levez-vous. Vous avez appris de ces jeunes. C'est vous l'avenir de notre pays. C'est vous le demain que nous attendons. C'est vous qui allez sauver notre pays. Ce ne sont pas les vieilles générations. Alors, il y a aussi ce mouvement Sindou Moudja. Je vais vous donner la genèse de Sindou Moudja. C'est né, en fait, c'est un évêque qui faisait l'homélie dans une église, et il faisait allusion au fait qu'il allait y avoir la troisième représentation de M. Pierre Nkurunziza à la présidence du Burundi. Et puis il disait, chers chrétiens, sachez que pour vivre, on n'a pas besoin d'être esclave. Il a dit, nous ne sommes pas des esclaves. Nous devons vivre dignement. Nous devons rester debout et dire aux politiques ce qui va et ce qui ne va pas. Oser dire non. Oser dire, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est comme ça que le nom Sindou Moudja est né. Et nous, on aimerait bien, avec l'accord de cet évêque, bien évidemment, avec l'accord de ceux qui ont combattu avant nous, parce que nous, ici en Belgique, on les a rejoints parce qu'on voyait que le mouvement était beau, qu'ils avaient besoin d'être soutenus, on aimerait l'utiliser aussi et rejoindre les quatre mouvements qui sont là. Voilà, c'est juste le message.
Est-ce que je peux vous faire une petite révélation? En avril 2011, quand on était invité au Congo, juste après le Congo, une semaine après, on devait aller au Burundi sur invitation de frères burundais. Mais malheureusement, on a été emprisonné par Kabila et ça a fait un tollé. Donc malheureusement, on n'a pas pu y aller. Mais c'était prévu. On allait aller échanger avec des frères burundais. Mais bon, peut-être que ce n'est que partie remise. Merci beaucoup.
J'espère qu'on aura l'occasion, faute de les visiter au Burundi pour le moment, de pouvoir les visiter, les rencontrer quelque part. Ils sont là, partout dans le monde, et donc vous allez les voir. Et d'ailleurs, il y a un mouvement de femmes et de filles pour la paix et la sécurité au Burundi, qui existe aussi depuis l'année dernière, et qui est un peu partout, où vous allez retrouver aussi des jeunes femmes qui sont très actives, et qui pourront donc travailler avec vous.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Juliette, pour ce témoignage. Je pense que c'était important que l'on entende la voix des Burundais aussi aujourd'hui à cette table.
Vous venez d'écouter la première partie de la conférence sur les nouvelles mobilisations citoyennes en Afrique, enregistrée le 11 avril 2016 à l'amphithéâtre Chavannes, campus du Solbosch, Université libre de Bruxelles.
Radio Campus, la radio où il n'y a pas que des blancs. Oui, oui.